Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Une vidéo virale d'une allocution en anglais d'Ousmane Sonko présentée comme un discours du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est ce qu'on appelle un hypertrucage ou deepfake. Kaofi Soui de l'AFP Factuel épingle cette Infox en début d'émission. Et l'on y revient avec notre invité Gérald Lubovitch, expert en intelligence artificielle et manipulation de l'information. Avec ce constat, la montée en gamme des IA génératives est vertigineuse et en face, les moyens sont dérisoires pour empêcher cette fuite en avant. Enfin, dans sa chronique, Grégory Genevrier s'intéresse aux exploits sexuels d'une jeune femme soi-disant ukrainienne lors d'un prétendu championnat mondial du sexe. Mais tout est faux dans ce récit propagé par des comptes pro-russes pour alimenter le narratif d'un Occident décadent. Nous retrouvons donc tout de suite Kaofi Soui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
À peine élu président du Sénégal, 2 semaines après sa sortie de prison, que Bassirou Diomaye Faye est déjà ciblé par la désinformation.
Oui, Sophie, l'opposant qui a été élu le 24 mars dernier président du Sénégal a aussitôt nommé son mentor Ousmane Sonko comme premier ministre. C'est dans ce contexte que des publications virales prétendent dévoiler une vidéo du nouveau président sénégalais parlant un parfait anglais.
It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Centuries of misery, human trafficking, colonization and neo-colonization have caused immeasurable suffering.
Dans cette vidéo de 5 minutes, l'homme présenté comme le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, indique qu'il est grand temps pour la France de lever son genou du cou du Sénégal. Il dénonce des siècles de misère, de traite des êtres humains, de colonisation et de néocolonisation qui ont provoqué des souffrances incommensurables.
Alors ce discours pourrait s'inscrire dans la droite ligne des objectifs politiques du nouveau président sénégalais qui se présente comme un panafricaniste de gauche et parle ouvertement de changements systémiques. Sauf que ce n'est pas le nouveau président Bassirou Diomaye Faye que l'on voit dans cette vidéo, Kaofi.
Non, en effet, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye que l'on voit à l'image, mais plutôt Ousmane Sonko, son mentor. Une recherche d'image inversée à l'aide du moteur de recherche Google nous a conduit à une ancienne vidéo publiée sur la chaîne du média sénégalais Sénégal 7. La vidéo, d'où est extrait la séquence virale largement relayée sur les réseaux sociaux, a été mise en ligne le 2 juillet 2021. Il s'agit donc d'une ancienne vidéo. Ce n'est donc ni la bonne personne, ni le bon moment.
Par ailleurs, Ousmane Sonko s'exprimait-il en anglais dans la vidéo originale ?
Non, ce n'est pas le cas. L'opposant devenu Premier ministre s'exprime en français et en Wolof, une langue locale du Sénégal. Les 2 séquences vidéo en français et en Wolof ont été diffusées bien longtemps avant la tenue de l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Lors de cette conférence de presse, Ousmane Sonko ne s'est pas exprimé en anglais. La vidéo a fait l'objet d'un montage. La voix en anglais a été ajoutée aux images d'origine.
Pourtant, en regardant cette vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir affaire à un discours prononcé en anglais. Le timbre de voix ressemble d'ailleurs à celui d'Ousmane Sonko.
Oui, Sophie, mais en observant attentivement les mouvements de la bouche, on repère plusieurs altérations d'image dans ce montage. Certaines de ces altérations déforment par moments le visage d'Ousmane Sonko qui est un peu flou. Bien que l'AFP n'ait pas pu confirmer quel outil a été utilisé pour synchroniser la bouche d'Ousmane Sonko avec l'audio généré en anglais, il est probable que cela ait été fait à l'aide de l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup Kaofi Soui. Ce travail de vérification est en ligne sur le site de l'AFP Factuel avec en lien un document très précieux. C'est un guide élaboré par l'AFP avec des conseils et des astuces pour faciliter l'identification des contenus générés par l'intelligence artificielle générative. Et tout de suite avec notre invité, justement spécialiste de l'IA et de la désinformation, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette technique du deepfake ou de l'hypertrucage en français.
On en parle.
Bonjour Gérald Lubovitch.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste indépendant, expert de l'intelligence artificielle et en particulier de la question de l'IA générative et des manipulations de l'information. Mmh. Alors quand on circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on devient familier de l'IA générative, parfois même sans le savoir, notamment par le biais de ce qu'on appelle des deepfakes ou deep voice. Et c'est bien pourquoi on va commencer par cet entretien, par quelques mots d'explication sur cette nouvelle forme de contenu. Techniquement, qu'est-ce qu'un deepfake ?
Alors un deepfake, en fait, c'est une vidéo ou un son ou un contenu qui est manipulé par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc une série d'algorithmes qui va modifier le contenu d'une façon ou d'une autre. C'est apparu en 2017 sur Internet et en l'occurrence, il s'agissait de greffer le visage d'un individu sur le corps d'un autre individu. Donc on a pu avoir des vidéos comme ça qui montraient Tom Selleck incarné Indiana Jones ou d'autres célébrités dans des situations un peu drôles. Et puis, malheureusement, il y avait aussi la production de contenu pornographique qui a proliféré à ce moment-là et qui a fait le gros, en fait, de la production de deepfake à l'époque. Aujourd'hui, on retrouve plutôt des deepfakes voix et beaucoup d'IA génératives qui ne sont pas basées exactement sur la même technologie, mais qui reprennent en réalité la même philosophie. Il s'agit de tromper, en fait, volontairement, pour des buts d'amusement, de divertissement ou pour des buts moins avouables, les personnes qui vont regarder ces médias.
Informatiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe ?
Alors informatiquement, en gros, les IA génératives qu'on utilise aujourd'hui, en fait, ce sont des algorithmes qui ont été entraînés sur d'immenses bases de données, soit du texte, soit de l'image. Donc, il faut imaginer énormément de quantités de texte. Globalement, pour le texte, c'est quasiment tout ce qui est trouvable sur Internet. En termes d'images, c'est plusieurs millions d'images. Et en fait, on va donner cette base de données à l'algorithme pour qu'il puisse comprendre comment une image est faite, comment un texte se structure. Et tout seul, c'est ce qu'on appelle le deep learning ou le machine learning. En fait, tout seul, la machine va apprendre à reconnaître en fait des schémas, des structures dans le texte ou dans l'image. Et donc, du coup, va être ensuite capable de reproduire ça.
Ça devient des ingrédients qu'elle va pouvoir combiner ensemble pour fabriquer. On va écouter, ce sera peut-être plus concret, on va écouter tout de suite un extrait de vidéo qui a été fabriqué tout spécialement à des fins de démonstration.
Oui, effectivement, les punaises de lit sont un énorme problème de santé publique. Mais je vous l'annonce aujourd'hui, si d'ici la mi-octobre, le problème n'est pas résolu, nous envisageons très sérieusement un confinement de plusieurs jours. Histoire de nettoyer toutes les villes de France.
Précisons tout de suite que ceci ressemble à la voix d'Emmanuel Macron, mais qu'il n'a pas tenu ses propos. Donc, comment on procède pour, très concrètement, pour obtenir ce résultat ?
Alors, en fait, il y a eu, depuis quelques années, il y a eu une prolifération d'outils. Il y en a quelques-uns qui sont plus performants que d'autres, et c'est des outils qui sont vraiment accessibles à n'importe qui. Donc, il y a un outil, en l'occurrence, qui s'appelle Eleven Labs, qui permet, en fait, de faire de la voix synthétique. Donc, en fait, on va enregistrer quelques minutes de voix, on va donner ce fichier, cet enregistrement au logiciel, donc on va le télécharger sur la plateforme, et à partir de là, l'intelligence artificielle de cette plateforme-là va reconnaître et va être capable de, en fait, d'utiliser les caractéristiques de la voix pour pouvoir recréer n'importe quel texte.
Donc là, on arrive à faire parler Emmanuel Macron, à lui faire parler des punaises de lit, ce qui est doublement désinformant, puisque déjà, il y avait des informations au niveau de ce narratif des punaises de lit qui a été artificiellement amplifié sur les réseaux sociaux.
Exact.
Et en plus, donc Emmanuel Macron n'en a jamais parlé, n'a jamais eu l'intention de confiner les populations
non.
À ce sujet. Bon, là, il s'agissait d'une démonstration dans le cadre d'une émission télé sur une chaîne grand public, mais on a déjà des applications un peu plus inquiétantes dans un contexte électoral. On écoute un extrait de la voix de Joe Biden.
Help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday.
Ce message avec la voix de Joe Biden a été utilisé dans une campagne d'appel téléphonique automatique, ce qu'on appelle robocall en américain. Ça s'est passé dans le New Hampshire aux États-Unis lors des primaires en janvier dernier.
Et en fait, grosso modo, il demandait aux électeurs de ne pas se présenter à la primaire démocrate, mais de privilégier plutôt l'élection de novembre, ce qui du coup détourner en fait les électeurs de leur objectif principal de voter à la primaire en fait.
Voilà, alors donc une enquête est en cours parce qu'en fait il va falloir retrouver qui est-ce qui a provoqué ce type de manipulation. Est-ce que c'est réellement inquiétant aujourd'hui dans le cadre des campagnes électorales? On sait que 2024 est une année où il va y avoir des scrutins dans le monde entier. Est-ce que ce type de manœuvre risque vraiment d'impacter les démocraties, les processus électoraux?
Oui, en fait, on a eu en Slovaquie donc, des élections pour la présidentielle. Et donc, il y avait un candidat de gauche, un candidat de droite qui, classiquement, était un peu au coude à coude. Le candidat de gauche devançant le candidat de droite de 2 ou 3 points. Donc, une marge d'erreur. Hein, on était à 21-19. Et 48 heures avant le scrutin, dans la phase moratoire, c'est-à-dire dans la phase où on n'a pas le droit de publier de sondage ou quoi que ce soit, est sorti, a émergé un deepfake audio où on pouvait entendre en fait le candidat de gauche tenter de manipuler les élections en achetant des votes et en insultant un peu son candidat de droite. Résultat des courses, au scrutin, c'est le candidat de droite qui a gagné, qui est donc désormais le président de la Slovaquie, et le malheureux candidat de gauche s'est retrouvé perdant. Et on a découvert par la suite que c'était donc un deepfake et pas du tout un enregistrement original. Et donc là, pour le coup, il y a eu une vraie... Alors c'est la Slovaquie, on va dire que c'est un petit pays, entre guillemets, d'Europe, mais rien n'interdit qu'on puisse retrouver le même scénario dans d'autres circonstances et que ce soit très difficile à prouver, notamment sur... voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça passe par les médias, on peut très bien diffuser ça à travers des canaux de réseaux sociaux ou des chaînes WhatsApp ou Signal, et ça peut faire le job complètement.
Et comme on l'a vu aux États-Unis, c'était donc des appels au téléphone. Et alors, il y a justement autre chose, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui à la personnalisation de la désinformation. Et ça aussi, l'intelligence artificielle y est pour quelque chose.
Oui, parce qu'en fait, tout ça repose sur un ensemble de données. Donc, à partir du moment où on arrive à récolter d'une manière ou d'une autre, par des petits programmes qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle, les informations personnelles d'un individu ou d'un autre, il est plus facile, effectivement, de calibrer l'intelligence artificielle à l'aide de ces données personnelles. On arrive même, alors là, dans l'objet, on s'éloigne un peu de l'information, mais c'est dans le cadre de manipulation, d'arnaque, etc., à reproduire la voix, par exemple, d'une fille ou d'un fils qui va et d'appeler les parents ensuite pour leur réclamer de l'argent parce que le fils ou la fille serait en difficulté. Donc on a quand même tout un tas de personnes qui commencent à utiliser ces outils-là pour soit effectivement faire des bonnes vieilles arnaques, mais très évoluées en termes de technologie, soit carrément manipuler le cours d'une élection ou d'un résultat ou de l'opinion de façon générale.
Et l'utilisation, le recours aux voix synthétiques, c'est-à-dire des voix fabriquées informatiquement, est-ce qu'il est de plus en plus important sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a un ordre de grandeur?
Non, un ordre de grandeur, non, mais on a souvent beaucoup d'occurrences maintenant, effectivement, sur ces questions-là. Il y a eu toute une vague, là, récemment, où en France, en tout cas, on pouvait entendre Élise Lucet faire la promotion d'un certain nombre de services qui n'étaient pas... qu'elle ne soutenait pas. Guillaume Canet, Mbappé aussi, voilà.
Ce sont des personnalités très connues.
Exactement.
Il y a aussi moyen d'utiliser des profils créés de toutes pièces pour faire passer certains narratifs.
Oui, oui. Alors après, l'imagination est la seule limite. Hein. C'est-à-dire que soit on va se servir d'un appui crédible, donc une image d'une personnalité connue pour pouvoir faire véhiculer ce narratif-là en particulier, ou alors on va effectivement sortir un témoignage anonyme. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit quand même l'utilisation de... On prête des paroles à des gens qui ont déjà du poids, qui ont une forme de surface médiatique pour déjà appuyer aussi en crédibilité le message qui va être porté, quoi.
Alors donc, la qualité, elle s'améliore, la qualité de ce type de production?
Oui, la qualité, elle est devenue... On a eu un saut qualitatif assez important là sur l'année et demie qui vient de s'écouler. C'était un peu le dernier rempart. Hein. En fait, quand les premiers deepfakes ont débarqué sur Internet, on voyait que l'image était de plus en plus sophistiquée, mais on sentait bien qu'au niveau de la voix, c'était pas encore ça. Et puis, la voix a rattrapé son retard. Et maintenant, c'est vrai qu'avec suffisamment d'échantillons, c'est-à-dire qu'avec 4-5 minutes de voix, on est capable de reproduire une voix assez, assez proprement. Il n'y a plus besoin des 2-3 heures qu'on avait avant. Et donc, du coup, effectivement, là, on n'est pas dans du quasi-parfait. Mais OpenAI a annoncé, il y a encore quelques jours, qu'en réalité, ils allaient travailler sur une voix hyper réaliste, une voix humaine hyper réaliste. On se demande bien pourquoi est-ce qu'il y a vraiment besoin d'obtenir des voix hyper réalistes quand on a déjà des voix très réalistes. Mais voilà, en fait, c'est la tendance, on va vers ça, quoi.
Et qu'est-ce qui pourrait enrayer cette course à l'innovation dans ce domaine, en fait ?
Alors, en réalité, c'est un choix politique, hein, c'est un choix de société. C'est-à-dire qu'en tant que société, il faut savoir exactement quelle place on veut donner à ce type de technologie, qu'on s'interroge à la fois individuellement sur la place de l'information, par exemple, dans nos vies. Est-ce qu'on a besoin ou envie que ces informations-là soient mises au défi par des contenus de ce type-là ? Et puis, en réalité, après, c'est concrètement parlant, c'est des dispositions politiques. Voilà, il faut soit légiférer et mettre les moyens de contrôle derrière. Mais il y a beaucoup de défis par rapport à ça, parce qu'ensuite, il y a quand même une liberté d'innovation et d'entreprendre. Il y a des libertés commerciales. Il y a tout un tas de choses, y compris de la propriété intellectuelle. Donc c'est un ensemble de dimensions qu'il faut prendre en compte, qui sont pas simples à gérer. J'ai envie de dire que c'est vraiment un choix qu'on doit faire.
Je me trompe ou bien il y a un décalage entre la capacité à améliorer la production de produits d'IA générative et la capacité à les détecter ?
Alors non, vous vous trompez pas. En fait, en réalité, la détection, elle est toujours derrière. Hein. C'est vieux comme les virus informatiques. C'est-à-dire que d'abord, il y a un virus. On va essayer ensuite de trouver l'antivirus. Et à chaque fois, il y a un nouveau virus qui va apparaître. Et on va essayer de trouver le nouvel antivirus. Là, c'est un peu la même chose. Et avec en plus le problème que le virus, il est réalisé à des fins spécifiques, vraiment de façon malveillante. Alors que ces contenus-là peuvent être réalisés de façon bienveillante dans le cadre d'une émission de divertissement, comme on a pu l'entendre, ou pour de la blague, ou pour des raisons très particulières. Par exemple, un journaliste peut utiliser ces voix-là pour protéger l'identité d'un témoin qui ne voudrait pas être reconnu parce que sa vie pourrait être mise en danger s'il était reconnu. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même des différents cas d'usage qui peuvent être pris en compte, et c'est très difficile, en fait, de se dire on va trouver la clé pour résoudre le problème d'un coup, quoi.
Est-ce qu'on va pouvoir compter à terme sur des moyens techniques d'identification de ce qui est généré artificiellement ou pas ? Ce qu'on appelle par exemple le watermarking, c'est-à-dire le fait d'insérer sur l'image une sorte de tatouage numérique. Est-ce que ça peut être une solution pour permettre d'identifier ces contenus ?
Oui, alors il y a effectivement des solutions qui se développent. Il y a aux États-Unis un consortium industriel qui s'est mis en place, qui s'appelle le C2PA, qui a réuni un ensemble de professionnels, d'industriels de très haut niveau, avec donc il y a Microsoft, il y a Sony, il y en a tout un tas, qui donc en fait ont inventé en fait une forme de labellisation de watermark comme ça, de filigrane, qui permet en fait de reconnaître en fait une image, de tracer son nom, authenticité. Et puis il y a le Content Authenticity Initiative qui fait à peu près la même chose, qui est en tandem avec le C2PA et qui pousse en fait ces solutions-là pour le grand public. Donc c'est une chose, mais en réalité on l'a bien vu avec toutes les tentatives depuis des années, avec notamment Adopi par exemple, on a bien vu que la question du marquage des contenus intellectuels, que ce soit à partir de dispositifs de DRM, hein, donc de marquage aussi des contenus, était contournée, était piratée, était hackée. Donc ça peut servir un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, et puis quand on est une simple personne, en réalité, ce genre de choses, on ne les regarde pas. C'est pas le problème.
C'est parce qu'on scrolle très vite sur les réseaux sociaux et on ne s'aperçoit pas forcément qu'on est en train d'être trompé.
Oui, c'est ça. Si ma sœur m'envoie un message avec une voix synthétique et que je ne fais pas attention, il est possible que si, entre avec mes courses à la main et puis mes enfants de l'autre, il est possible que ça passe.
Voilà. Tout le monde est une victime potentielle de ce genre d'entourloupe. Alors, cette semaine, Gérald Lubowitz, on a pu vous entendre longuement auditionné au Sénat par la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère. Quel rapport entre cette question des IA génératives et des problèmes d'opérations d'influence étrangère ?
En fait, on se rend compte que, globalement, comme on peut produire en fait du contenu très facilement et finalement facilement, imiter des personnalités très facilement, bah, des acteurs malveillants peuvent s'en saisir. On a eu le cas avec Volodymyr Zelensky. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, on s'est retrouvé avec un deepfake de Volodymyr Zelensky indiquant qu'il fallait au peuple ukrainien qu'il devait abandonner les armes. Donc, heureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait pu être pris sérieusement par la population et donc changer le cours de l'histoire.
Mais alors justement, c'était il y a 2 ans, je m'en souviens très bien, et on voyait bien la démarcation, il y avait quand même des choses qui étaient assez mal faites sur la forme. Pourquoi depuis 2 ans, en fait, on pourrait quasiment s'étonner du fait qu'il n'y ait pas eu encore pire que ça?
Non, en fait, il y a tout un tas de dispositifs différents, c'est-à-dire qu'en gros, on est passé dans la force brute avec ce type de deepfake à quelque chose de beaucoup plus raffiné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on va plutôt aller chercher en fait les faiblesses d'une société, c'est-à-dire sur des thématiques très particulières, je sais pas moi, l'immigration, le voile, la baïa ou je ne sais quel autre, ou les puces de lit par exemple, et puis on va générer en fait des contenus massivement pour en fait envahir en fait la sphère publique numérique, que ce soit sur les réseaux notamment, et pour inonder en fait cette sphère publique numérique de contenus qui poussent plutôt vers une thèse. Et en fait, il s'agit pas en fait d'être clairement dans le pays agresseur qui va agresser le pays agressé, mais plutôt d'être dans une forme d'exploitation des dissensions internes du pays lui-même pour exploiter ses faiblesses et le déstabiliser de cette manière-là.
Donc il y a un grand besoin de régulation aujourd'hui.
Oui, alors c'est même au-delà de ça, je pense que sur la question de la régulation, c'est encore pareil, hein. C'est-à-dire que la régulation, faire un texte de loi, c'est tout à fait... Le texte de loi ne s'applique qu'aux gens qui jouent au jeu.
Mais qu'est-ce qui a été fait, par exemple, au niveau européen? On a quelque chose qui s'appelle, un dispositif qui s'appelle l'IA Act. Est-ce que c'est satisfaisant?
Alors l'IA Act, en fait, il couvre un certain nombre d'applications. C'est le premier texte, d'abord, qu'on a à une échelle supranationale, donc là au niveau européen, qui encadre l'IA. Donc on a, ça c'est vraiment pour le coup une avancée, on peut se satisfaire de que l'Europe ait pu fournir un texte de cette manière-là.
Il a le mérite d'exister, mais est-il suffisant d'exister.
Mais il n'est pas suffisant, parce qu'en réalité il ne traite que d'une partie du problème, et que la question par exemple de la désinformation, en tout cas de la sphère, de l'usage de l'IA dans la sphère informationnelle, n'est pas traitée. Ça a été remarqué par Reporters sans frontières, qui a publié une tribune, mais globalement, c'est vrai qu'on voit mal, en fait, dans les dispositifs de l'IA Act, des choses qui permettent, en fait, de se prémunir, en fait, de ces actions-là.
Donc, qu'est-ce qui reste? La gestion par les plateformes, mais qui, pour l'instant, se considèrent comme de simples hébergeurs et pas des éditeurs, alors qu'en réalité, finalement, c'est ce qu'elles sont.
Oui, c'est ça. En fait, il y a deux axes dont on a parlé d'ailleurs à cette commission. C'était effectivement, en réalité, le fait de passer en fait les plateformes sous statut d'éditeur, donc pour en fait qu'ils soient responsables en fait des messages qui sont contenus et produits et diffusés sur leur plateforme. Et puis il y a aussi, en fait, s'il y a de la désinformation, c'est parce que l'information va mal quelque part, et l'information va mal aujourd'hui parce qu'elle n'a pas les revenus nécessaires pour pouvoir en fait produire de l'information de qualité. Et donc là, une des solutions, c'est aussi de réguler le marché de la publicité en ligne pour éviter qu'il y ait une solution de monopole qui s'installe comme Google peut l'obtenir aujourd'hui, parce que c'est quand même 90% des publicités qui sont générées, de l'argent généré par les publicités en ligne qui revient à Google. En fait, si on rééquilibrait ces revenus-là, ça permettrait à la presse de retrouver un peu d'air, de pouvoir réinvestir sur des journalistes, sur des solutions techniques, de pouvoir retourner vers les gens et de produire du journalisme de qualité, encore plus de qualité.
Donc c'est tout le système, l'écosystème informationnel qui est à revoir en fait.
Oui, globalement, oui.
Merci beaucoup Gérald Holubovitch. Je rappelle donc que vous êtes expert en IA générative, en intelligence artificielle et en manipulation de l'information. Autre chose, à présent, la désinformation n'a pas forcément besoin de moyens techniques pour gagner en visibilité, surtout lorsque le sujet est vendeur. Bonjour Grégory Genévrier.
Bonjour Sophie.
La nouvelle a fait le buzz cette semaine. Une jeune Ukrainienne aurait remporté le championnat du monde de sexe avec 210 partenaires, nous dit-on. Mais tout est faux dans cette histoire. L'événement n'a rien d'officiel et la gagnante n'est pas ukrainienne en réalité. C'est une nouvelle infox poussée par la propagande russe visant à dépeindre une Ukraine décadente et un Occident dépravé.
Oui, la photo cumule des millions de vues. On y voit une jeune femme blonde, tout sourire, prenant la pose avec son attestation de gagnante du championnat du monde de sexe 2024. Naozilov, c'est son nom de scène, tient un drapeau aux couleurs bleu et jaune sur ses épaules. Les internautes qui partagent ce cliché l'affirment. Naozilov s'appellerait en réalité Olesya Prirodko et elle serait d'origine ukrainienne.
Sauf qu'en réalité, Naozilov n'est pas ukrainienne.
Non, cette travailleuse du sexe de 26 ans est suédoise. Nous l'avons contactée et voici son témoignage.
Je m'appelle Naozilov. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de publications sur les réseaux sociaux affirmant que je suis ukrainienne, que mon vrai nom serait Olesya Prirodko. Mais tout est faux, je suis uniquement suédoise.
La photo sur laquelle elle tient son drapeau a en fait été volontairement recadrée, de sorte que le drapeau suédois qu'elle porte ressemble au drapeau ukrainien, lui aussi, jaune et bleu. Et puis sur le fond aussi, il y a du faux, puisque certains affirment que Naozilov aurait couché avec 210 hommes pour remporter le concours, un chiffre totalement inventé.
Et alors cet événement présenté comme le championnat du monde de sexe, est-ce qu'il existe vraiment ?
Eh bien non, il n'y a pas de championnat officiel. Le sexe n'est pas reconnu comme une pratique sportive en Suède ou ailleurs. Cet événement a été organisé par la Fédération suédoise du sexe, un nom, attention, volontairement trompeur, puisque cette organisation n'est pas reconnue par la Confédération nationale du sport suédois ni d'autres pays. Ce concours est en fait une initiative privée lancée par un Suédois. L'édition 2024 a rassemblé en Espagne une dizaine d'acteurs X et de travailleurs du sexe venus des États-Unis, de Colombie, d'Iran, de Suède, mais pas d'Ukraine.
Alors la viralité de cette affaire a surpris les protagonistes eux-mêmes. Mais est-ce que l'on sait un peu qui est derrière cette manipulation ?
Eh bien l'infox a d'abord été publiée par des internautes russophones sur Telegram et VKontakt. Parmi eux, on retrouve d'ailleurs de nombreux comptes identifiés comme des vecteurs importants de la propagande russe. C'est notamment le cas d'Olga Skabeyeva, journaliste russe, star des médias officiels du Kremlin. Et puis la rumeur est ensuite devenue virale sur X et Facebook avant de se retrouver publiée par des médias, notamment africains, du Togo, de Côte d'Ivoire ou du Bénin, ce qui a poussé l'un de nos auditeurs à nous alerter pour démêler le vrai du faux.
Alors, quel serait l'objectif de la manœuvre ?
Eh bien, présenter l'Ukraine et plus globalement l'Occident comme décadent, dépravé. Ce narratif est omniprésent dans le discours officiel russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a quelques mois, la propagande russe avait affirmé qu'une actrice pornographique ukrainienne était candidate à l'élection présidentielle de son pays. Mais là encore, c'était une infox.
Merci à vous Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Pour les références et autres vérifications, vous pouvez nous retrouver en tapant InfoVérif RFI dans une barre de recherche. Sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans deux minutes, un nouveau journal, mais avant cela, ce qui sera au sommaire d'Afrique Soir. Afrique Soir, c'est dans une demi-heure, l'essentiel du continent, l'actualité du continent, c'est Frère Nkwadio, et à la une, le Mali, hein, les réactions aux nouvelles restrictions imposées aux partis et associations à caractère politique.
Oui, décision que dénoncent les Nations Unies, les États-Unis, l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch. Réaction également et surtout au Mali, avec le Premier ministre qui enfonce le clou, en indiquant que des élections en vue d'un retour des civils au pouvoir ne seront organisés qu'une fois le pays définitivement stabilisé. Point complet dans Afrique Soir.
Et il sera également question du renforcement du partenariat entre Moscou et Niamey, cela sur fond de remise en cause de la présence américaine.
Oui, un gros porteur russe transportant du matériel et des hommes a atterri à l'aéroport de Niamey mercredi. Aucune mention sur le nombre d'hommes ni leur qualité. Impossible également de savoir si ce sont des militaires réguliers de la Fédération de Russie ou des miliciens de la compagnie Africa Corps ex-Wagner. On tentera d'y voir clair. guerre. Nous reviendrons aussi sur l'offensive diplomatique de l'Ukraine en Afrique, offensive marquée par l'ouverture cette semaine et la semaine prochaine de 6 ambassades sur le continent. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal nous expliquera pourquoi Kiev s'intéresse à l'Afrique.
Zéphirin Kouadio qui présentera Afrique Soir, c'est dans une bonne demi-heure maintenant sur Radio France Internationale.